Bonjour à tous, merci d'être venus. Et nous allons donc, Jeffrey Spock, donc du studio Amplitude, qui est directeur narratif du studio, qui a travaillé sur tous les jeux de la licence Endless, donc Endless Space, Endless Legend, Endless Space 2 et Dungeon of the Endless, voilà. Qui vient vous parler de cet univers et vous pourrez évidemment, bien sûr, lui poser des questions aussi. Donc, Jeff, je te passe la parole pour présenter l'univers, ce que tu as envie d'en dire. Et puis, n'hésite pas à solliciter le public s'ils ont des envies par rapport à ce que tu veux présenter.
Très bien. Merci. Merci, Florent. Bonjour tout le monde. Je m'excuse d'abord d'être américain d'origine. Donc, si l'accent commence à alourdir pendant la conférence, c'est la faute de mes parents. C'est pas de ma faute. Et juste pour vous assurer, il n'y a pas de point sur l'oreille. Je voulais juste. Alors, donc, ce que je vais parler aujourd'hui du temps dans notre univers, l'univers Endless. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Amplitude Studio, on est une boîte française qui était fondée à Paris en 2011. Donc, on a fait les 4 jeux comme Florent vient de les énumérer. Ce qu'on a fait dès le début était la première étape, effectivement, avec le directeur créatif Romain de Vaubert, c'était de créer notre univers, sachant qu'on voulait faire un univers pour les jeux de stratégie, 4X, soit en espace, soit sur une planète. Donc on avait quand même, on cherchait assez loin. Un univers qui pourrait aller pour la science-fiction et pour la fantasy. Donc avec toutes les recherches et tous les travaux qu'on a fait, on est arrivé à créer notre univers qu'on appelle Endless. Et là, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, ce que j'aimerais discuter un peu, c'est la notion de temps dans notre univers et surtout le temps dans le sens de déroulement de l'univers et des jeux de l'univers, mais aussi la notion d'une file rouge ou d'un narratif de l'univers dans un univers qui est généré aléatoirement avec chaque nouveau jeu qui est lancé. Donc c'est un peu ça que je vais oser essayer. Alors d'abord, le temps c'est un casse-tête pour nous et pas juste parce qu'à chaque fois on a 2-3 mois de retard avec le lancement du jeu. C'est un peu inéluctable. Mais c'est difficile. Donc, je vais présenter trois questions avec le temps. Donc, le premier, c'est les chronologies de notre univers, donc le déroulement des jeux dans l'univers Endless. La chronologie, disons, entre les jeux. À chaque fois que chaque joueur lance le jeu, il lance une nouvelle partie, ou elle lance une nouvelle partie. C'est pas comme un jeu où il y a une campagne que tout le monde va jouer. Chaque jeu est unique et différent, qui mène naturellement à la question, c'est quoi le vrai jeu, c'est quoi le vrai univers, c'est quoi l'histoire actuelle de l'univers Endless. Et ça m'amène à des questions physiques assez intéressantes, donc voilà, je vais parler un peu de ça. Et dernièrement, de notre notion de temps. Et le temps dans le jeu, et qu'est-ce que ça veut dire faire un jeu et passer un tour. Donc voilà, des questions générales. Si jamais à un moment vous avez une question, un commentaire, une insulte, ne vous retenez pas. Donc voilà, ok. Alors d'abord, la chronologie de notre univers. Je vais faire à la fois le calendrier comme on connaît, et un peu l'histoire de notre univers, mais très très généraliste. Une chose que j'aime pas faire, c'est créer une timeline explicite avec des dates et des noms d'un univers fictif, parce que dès que ça existe, on est menotté par ça. On perd toute notre flexibilité, et de plus, comme je vais vous expliquer plus tard, ça casse un peu l'esprit même de notre univers. Donc voilà, premier jeu était Endless Space en 2012, sorti un peu comme un ovni, il n'y avait pas beaucoup de 4X spatial à l'époque, c'était plutôt bien reçu, donc on a dit très bien, on peut continuer à payer les salaires, payer les loyers, on va faire un autre. Donc on a fait Endless Legend, sorti à peu près deux ans et demi plus tard, qui par contre était sur une planète, donc on avait énormément de travail sur le terrain, et qui était très difficile. mais à mon avis très joli. Après Dungeon of the Endless, qui est arrivé vraiment comme un truc à part, la vraie histoire, c'est qu'on prenait des bières après le travail avec 3-4 designers. On commençait à dire, bah, j'aime les roguelikes, et moi j'aime les tower defense, et le pixel art c'est cool, et d'un coup on a mis tout ça dans un seau, on a fait un peu comme ça, et Dungeon of the Endless est sorti. Mais dans notre univers, c'est effectivement le premier jeu. Donc ça s'est passé avant Endless Legend, et avant Endless Space. Donc il y a une chronologie dans l'univers qui est comme ça, mais ça devient vraiment compliqué quand on rajoute le deuxième Endless Space, parce que ça c'est censé passer à peu près en même temps. Et donc la question qui arrive souvent, c'est bah, lequel est venu en premier, Endless Space ou Endless Space 2? C'est quoi la chronologie là? Et là, ça devient compliqué. Donc, on va discuter un peu le temps. Alors, le temps, comme indiqué par notre héros Isho, a un sens, a une flèche. Et le nom de cette flèche, c'est l'entropie. Donc, le temps déroule toujours dans la direction d'un niveau d'entropie. Voilà, larger, agrandi, croissant, merci, heureusement, vous êtes là. Donc, on ne peut pas se rappeler de l'avenir, on ne peut pas changer le passé, ça c'est à cause de l'entropie. Et c'est ça qui, sur lequel est basée notre notion de temps. Donc, quand notre univers réel ici arrive à un statut de, ou à une condition d'entropie maximum, il n'y aura plus de temps, le temps sera fini. Le temps n'aura plus de sens. Là, tout ça, j'ai appris en recherchant cette, et ça m'a éclaté le cerveau. Mais bon. Bizarrement, ce qui est très bizarre avec les mécanismes quantiques, c'est qu'ils sont plus ou moins indépendants du temps et à même des argumentations où ils sont. Ça s'appelle la rétrocausalité. Et je peux vous garantir le prochain update qu'il y a dans un des jeux, il y a le mot rétrocausalité là-dedans parce que j'adore, je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est l'idée que même une particule est quand même capable d'avoir une influence sur des choses qui sont passées dans le passé. Donc que les particules peuvent être liées dans le temps. Donc le temps devient de plus en plus compliqué. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'idée que entropie est le sens d'une flèche dans le temps est indépendant des lois de la physique. Et là, j'ai dit ok, très bien, Jeff, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais ça nous amène à l'idée que les lois de physique locaux sont indépendants du temps. Et donc, ma prochaine question, c'était bien sûr, c'est quoi les lois de physique locaux? Lois de physique, la physique? Apparemment pas. Parce que le ou les univers sont infinis. Donc, la plupart des physiciens, ça marche. 20, 25 ans, j'ai fait toujours ça. Ok, le monde, notre monde, est décrit en termes de probabilité, les probabilités quantiques. Et donc, les mathématiques suggèrent quand même que si une situation quantique est possible, il va se passer. Peut-être pas dans notre univers, dans notre existence, mais dans un univers parallèle, dans un univers simultané à côté, ou dans un univers éloigné qui est une copie du nôtre. Parce que l'espace-temps est infini, mais la matière n'est pas forcément infinie. Donc, toutes les particules et tous les éléments de notre univers ne peuvent être arrangés que dans un nombre d'instances finies. Donc, ça va arriver quelque part, je vous jure. C'est pas juste. J'ai rien fumé, non, mais c'est duré. Donc, l'idée, c'est que l'univers cesse pas d'agrandir, mais il s'arrête à des moments qui sont pas réguliers. Donc, il y a un chaos aux limites de l'univers qui génère la création d'autres univers. Donc, ce qu'on a effectivement, ça s'appelle le multiverse. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. L'idée que Il y a un univers où je pose le micro et je continue à parler. Il y a un univers où je continue comme ça. Il y a un univers où j'ai des cornes. Donc, il y a tous les univers comme ça qui sont possibles et parallèles. Et donc, un multiverse de tout ce qui est possible. Alors, enfin, Et les mathématiques derrière les physiques quantiques disent que c'est possible. Si une situation est possible, ça devrait se passer, ça va se passer. Et donc tout ça nous amène à comment ça va toucher sur la narration de notre univers endless. Enfin, j'y arrive. Ok, donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça, c'est la question qu'on a souvent. Les jeux sont déroulés dans quel ordre? C'est quoi la vraie histoire de l'univers endless? Bon, dans un jeu qui est généré aléatoirement, comme tous nos jeux, c'est quoi la vraie histoire? C'était quelle faction qui a fait quoi, à quel moment, contre quelle autre faction, dans un monde ou dans un univers de quelle taille, avec quelles conditions et tout cela. De mon point de vue d'un multivers endless, chaque jeu est aussi canon que chaque autre jeu. Quelque part, pour moi, c'est inéluctable. On ne peut pas dire à un tel joueur que ah, vous avez fait la galaxie avec que deux factions et c'est une petite de ce forme. Donc, ce n'est pas valable parce que lui, il a fait 12 factions dans un univers de notre taille, de notre forme. Pour moi, chaque jeu qui est joué est un jeu canon pour cet univers, pour ce joueur, à ce moment. Et il n'y a aucune raison pour moi, en tant que directeur narratif, de vous dire que non, votre jeu, ce n'est pas le bon. C'est que ce que moi je dis qui est le bon. Donc, j'ai cette notion que j'adore. Chaque jeu que vous jouez, c'est une sorte de quête de Schrödinger. Et vous connaissez peut-être l'expérience théorique de Schrödinger, où il y a un chat dans une boîte, et avant d'ouvrir la boîte, on ne sait pas si le chat est vif ou mort. Et donc, parce que toutes les possibilités pour la vie du chat sont définies quand le chat est observé. Donc pour moi, chaque jeu qui est joué, c'est une sorte de quête de Schrödinger, parce que tout est possible dans tous les multiverses de l'Endless Universe, jusqu'au moment où le player interagit, change les possibilités et fait collapser tout pour son instance du jeu. Alors, Schrödinger's Quest, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vraiment, Jeff, qu'est-ce qui se passait? Ok, on va y arriver. Alors, par exemple, qu'est-ce qui s'est venu d'abord, Endless Space ou Endless Space 2? Bah, franchement, c'est soit l'un, soit l'autre, ni l'un ni l'autre, les deux, en même temps. Tout est possible. Mais nos jeux sont générés procéduralement, basés sur une seed, une graine. Donc, il y a juste un chiffre. Alors, on pourrait demander, c'est quoi le vrai graine, le vrai seed du vrai univers? Franchement, il n'y a pas de réponse à ça. C'est impossible de répondre à cette question jusqu'au moment où il y a un quantum collapse, un narrative quantum collapse. Et ça c'est le truc que sur lequel je suis tombé quand j'ai fait ça. Jusqu'au moment où on est obligé de mettre l'histoire de l'univers endless dans un média fixe. Ça, c'est le quantum collapse ultime de toutes les histoires et narratives possibles de l'univers du multivers endless dans un truc. Et quelque part, je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Quelque part, je veux écrire un roman dans notre univers. Quelque part, je me dis, mais ça veut dire que le jeu qu'un joueur joue, ce n'est pas le vrai, ce n'est pas le bon. Et ça me chagrine. Ça me chagrine, cette idée. Donc, je, pour l'instant, je lutte contre ça. Je lutte contre le collapse de toutes les possibilités, de toutes les possibilités narratives de notre univers et notre joueur dans un truc, dans un BD, dans un roman, dans un film signé Amplitude. Mais bon, peut-être un jour ça va changer, mais jusqu'au moment où ça arrive, on va rester avec cette idée que tous les jeux, tout l'univers, tout est possible et tout est valide. Alors, bon, ça c'était pour la partie temps entre les jeux. Maintenant c'est la partie tourne. Je suis désolé si ça semblait vraiment, vraiment parti de loin, mais bon, c'est la manière dans laquelle moi je vois l'univers. Oui.
Ouais. Micro pour que ça range. Vous ne pouvez plus mettre. Avec une approche comme celle-ci, vous ne pouvez plus mettre en place de jeu après Endless, que ce soit le valeur de nous, puisque tous les Endless joués sont les bons. Comment vous faites pour mettre quelque chose après les Endless
Oui, non, je comprends. Ce qu'on a fait, on a une sorte de. Pour l'instant, ça marche, je peux dire. Dungeon, c'était générée aléatoirement. Et Endless Legend s'est passé après. Donc, peu importe ce que tous les jeux et toutes les possibilités de dungeon aient été, Legend est suivi. Et après Legend, il y avait Space. Mais donc, pour l'instant, on a créé chaque jeu dans une expanse contrôlée un peu de l'univers pour qu'il n'y avait pas trop de besoins narratifs selon le jeu qui est... Ben, attends, je m'y perds là. Ok. Pour l'instant, chaque jeu qu'on a fait qui avait un précédent, on voulait que le précédent ne met pas d'effet sur le début du prochain jeu. Donc même si Dungeon s'est passé avant Legend, les caractères et les résultats de Dungeon, bah, on les verra peut-être dans l'avenir, dans d'autres jeux, mais c'est ça, pour l'instant, je crois que ça invalide pas les parties de Dungeon, le fait que Legend existe. Et normalement, pour Space, c'est la même chose. On verra pour ça. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on aimait avoir suffisamment de temps, de flexibilité et d'incertitude entre les jeux. Si ça arrive qu'on a un Endless Space 3 qui est un suivi direct d'Endless Space 2, c'est vrai qu'on serait obligé de dire, voilà, c'est ça le quantum collapse narratif. Mais j'aimerais éviter ça. J'aimerais que c'est l'imagination du joueur, l'expérience du joueur qui est le vrai univers, et pas le mien.
Est-ce qu'il ne suffit pas pour ça, justement, de mettre les différents jeux à des espaces-temps suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'effectivement, on n'ait pas de continuité narrative directe ?
Oui, tout à fait. Si c'était un jeu qui était très, très linéaire, comme un campagne de Battlefield ou les World of Warcraft ou même Heroes of Might and Magic sur lequel j'ai bossé, ça c'est très narratif, il y a un début, il y a un fin, et pour la suite, on sait, on connaît l'état du monde très très bien. Et c'est justement ça qu'on aimerait éviter, parce qu'on avait décidé dès le début de la création de studio de faire les jeux qui étaient générés aléatoirement. Et si les jeux sont générés aléatoirement, la main de l'écrivain serait très très lourde en obligeant le joueur de jouer le jeu qu'on dit est canon. Et ça, je trouvais ça...
Et du coup, tant qu'on est là-dessus, avant que tu poursuives...
Non, bien sûr.
Est-ce que tu parlais d'éviter le quantum collapse en ne faisant pas un média fixe sur les univers. Est-ce que si tu faisais un média fixe ou un roman par exemple, mais où tu utiliserais un personnage qui voyage dans ce multivers, tu n'éviterais pas justement ce quantum collapse à travers ce truc narratif?
Je prends mon stylo. Non mais c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, c'est une excellente idée. Ok. Merci beaucoup.
De rien.
Ok. Oui, alors, j'étais où? Ok. Pour le tour. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frustré un peu, du côté physique. C'est selon la théorie de relativité d'Einstein, end turn, c'est pas possible. Bon, c'est possible avec Dungeon, qui se passe tous dans quelques kilomètres carrés, où le temps est plus ou moins identique d'un bout à l'autre. Mais déjà, avec Legend, où vous êtes sur une planète, il y a quand même quelques centaines de nanosecondes si on pousse end turn entre les deux bouts de la carte. C'est presque simultané, mais pas vrai. Le vrai problème, c'est Endless Space 2, où il y a toute une énorme galaxie, et on est censé croire que c'est le même instant, partout, à travers toute la galaxie, sachant que selon les théories de relativité d'Einstein, c'est carrément impossible. On ne peut même pas y songer, c'est juste pas possible. Donc d'abord, merci Albert Einstein pour ça, mais bon. Parce que tous les éléments de l'univers ont des vélocités relatives l'un par rapport à l'autre, et le temps est aussi influencé par la gravité. Donc pour beaucoup de raisons, la notion de end turn est que tout l'univers, toute la galaxie a la même... C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors, on triche, c'est clair. Parce que là vraiment, on ne peut pas imaginer des multivers ou autre chose. Là, il faut dire, ok, il faut trouver une autre porte sortie. Et dans ce cas, je ne sais pas si vous avez joué beaucoup à Endless Space 2 encore, mais on avait créé un observeur très spécifique. Parce que le temps, c'est la référence de l'observeur qui mesure le temps. Donc ce qu'on a fait, on a dit que les créatures qu'on appelle les Lost, qui sont des espèces de dieux galactiques avec une présence un peu omniprésente, c'est eux qui regardent le intern. Donc comme ça, on peut dire que c'est le même instant à travers toute la galaxie et que quand le joueur pousse le intern, c'est vraiment identique pour tout le monde. C'est parce qu'on a triché avec l'observeur. Donc voilà. On était obligé, il fallait trouver quelque chose. Et bien sûr, il y a des quantum coupled instantaneous communications. Ce qui est, donc là, on joue vraiment au SF un peu extrême, mais on arrive à garder quand même les théories. Donc ça c'est tout ce que j'avais comme présentation, on peut dire formelle, entre guillemets. J'ai laissé beaucoup de questions. J'ai pas beaucoup plongé dans les jeux, dans l'univers et dans tout cela. Mais bien sûr, si vous avez des questions, des interrogations, des désagréments, des insultes, comme j'ai dit, c'est à vous maintenant. Merci.
Moi, j'ai une première question justement là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est commun d'avoir un tel souci du réalisme physique dans la création de jeux, ou est-ce que les gens qui font pas des jeux d'habitude, enfin, ne font pas juste ça comme ça parce que c'est fun et on va pas se poser la question de savoir si cliquer sur fin de tour c'est crédible en termes de physique quantique? Est-ce que c'est une approche que tu as déjà vue déjà, ou est-ce que tu sais que...
La question est, est-ce que je suis une obsédée, c'est ça?
Non, est-ce que
ça se peut? Non, franchement, ça se peut.
La question est plutôt, est-ce que tu ne serais pas un écrivain de science-fiction en fait,
ouais.
Qui a le souci de la science et pas uniquement de la fiction?
Bah, effectivement, je suis entré dans le jeu vidéo comme écrivain de science-fiction. Et donc, en créant l'univers, même si c'est un univers qui est fantastique, ou disons, je dirais en anglais, science fantasy, c'est super important pour moi que la partie qui peut être scientifique est scientifique et crédible, et qu'on trouve des raisonnements pour les choses qu'on fasse, jusqu'au point où, voilà, c'est le dust, c'est la magie, et on n'en parle pas, quoi. Mais pour les choses comme ça, pour moi, c'est important, parce que on dit pas, le dust n'est pas impliqué dans l'intern. L'intern, c'est un mécanisme de jeu, et donc c'est mon travail comme écrivain de jeu de rendre ça quelque part crédible. Donc oui, c'est un problème qui est unique à Jeff, je ne sais pas. Mais et sans doute, oui, sans doute à cause de mon passé comme écrivain de SF. Certes.
Bonjour, j'ai une petite question. Je suis là. Déjà, merci pour ce que vous faites, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu.
Chronophage, ouais, ok.
Voilà, je voulais parler un peu de la notion du temps du côté de la faction Riftborn.
Oui, oui.
Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous situez l'univers de départ des Riftborn dans le même multiverse que nous? Enfin, que le joueur, en l'occurrence. Parce qu'a priori, il vient d'autre part, mais
oui.
Et ensuite, je voulais parler aussi de la notion du temps, de la manipulation du temps qu'on a pu voir et dans le jeu à travers les bulles de temps qu'ils peuvent créer, et dans le comics qui a été écrit récemment sur le...
J'ai juste une question avant, du coup, avant la réponse, c'est qui a déjà joué ici à Endless Space 1 ou 2? Ok, pas mal de monde quand même, donc tu ne dois pas hésiter à préciser les Riftborn, pourquoi, comment,
ouais,
en répondant.
Okay. Très bonne question. Ok, le Riftborn, c'est une faction qui était nouvelle en Endless Space 2, qui vient de notre univers. Pour des raisons d'un événement qui se passe dans notre multiverse, il faut que je vais arrêter de dire univers, mais multiverse, il y avait une sorte de rift, d'ouverture, de faille, voilà, entre les univers. Et donc, c'est à cause de ça, c'est notre univers en train d'envahir et détruire le leur. Donc, ils ont des gens, des entités, des êtres qui viennent de notre côté, notre étant Endless, pour essayer de créer, de se sauver, de sauver leur peuple, d'essayer de fermer la faille et tout cela. Donc, première question, c'est, de mon point de vue, c'est pas les mêmes lois de physique pour les Riftborn. Donc pour moi, c'est carrément notre univers. Donc c'est une faille qui traverse le multiverse jusqu'à un lieu qui est carrément complètement différent. Donc ils sont censés être vraiment des êtres qui n'ont rien à voir avec nous. Pas les mêmes lois de physique, surtout, avec le, et pas les mêmes lois de, pas la même notion de temps. Parce que pour eux, le temps, c'est comme le poids, c'est comme la distance, c'est quelque chose qu'on puisse gérer, qu'on puisse contrôler. Et même, ils sont tellement aliens qu'ils n'ont même pas les corps. Il faut bâtir leur corps avec l'industrie, parce qu'ils n'ont pas de système de reproduction, parce qu'ils ne sont pas notre univers, donc ils ne sont pas des êtres biologiques. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'origine, c'est vraiment l'idée, c'est carrément une autre réalité. La deuxième question, c'est bon, et ça c'est toujours le travail sympathique d'écrivain, c'est de trouver des bonnes raisons pour les mécanismes de jeu qui trouvent que les designers inventent. Et donc là, on s'est dit que la capacité du Riftborn d'être indifférente à notre temps et leur capacité de gérer, disons. Ils avaient une gestion de l'entropie et de l'enthalpie qui, de leur univers. Alors on va dire qu'il avait amené ça dans le nôtre. Ok, ça c'était avant que j'ai fait cette présentation, j'ai compris le truc de local laws of physics et tout le reste. Mais bon, ceci étant dit, carrément l'idée c'est qu'ils arrivent avec une capacité de contrôler, de manipuler, de comprendre le temps que nous n'avons pas. Et ils avaient la possibilité limitée de se servir dans le jeu. Donc c'est que autour d'un système, c'est pour une duration limitée et tout cela. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait faire avec.
Merci.
C'est bon ? Merci, je vous en prie.
Du coup, moi j'ai une question sur Endless Legends.
Oui.
Parce qu'il y a toute une mécanique avec donc, l'hiver qui arrive de plus en plus vite et qui arrive de plus en plus longtemps. Et il y a comme une suggestion que les peuples qui s'éveillent au début du jeu s'éveillent d'un très long hiver et vont revenir dedans à la fin. Est-ce que c'était une volonté de faire croire qu'au final toutes les parties sont pas en parallèle, mais un peu toutes d'affilée dans une grande branche d'espace-temps de votre univers, ou est-ce que c'est plus un choix narratif pour...
C'est vrai que ça peut être interprété des deux sens, et je crois que ça ne perd pas de logique. Parce qu'il y a une notion où l'infini des univers est une espèce 2D au-delà de notre compréhension, mais où tous les univers se répètent. Et donc c'est possible que ce qui se passe sur Auriga se passe en séquence, comme ça, de manière d'une multiverse. L'idée que Auriga même, après 1000 ans, la glace part et ça renaît, et les mêmes créatures reviennent, et encore il y a la glace, et 1000 ans plus tard, ça... On n'avait pas vraiment conçu le jeu comme ça. Juste parce que au début, quand on était en train de le concevoir, le timeline était plutôt, il y avait les Endless, il y avait les guerres des Endless qui avaient partiellement détruit la planète, il y avait le temps de récréation, mais qui n'était pas forcément un âge de glace. C'était la renaissance du monde, mais c'était la renaissance du monde après avoir été presque complètement détruit par les armes biologiques, par les armes nucléaires et tout cela. Donc la recréation au début du jeu, c'est vraiment la renaissance de la planète comme une planète vivante qui était pendant des millénies une planète morte à cause des effets de la guerre. Donc je crois que c'est plutôt les multiverses parallèles qui tous finissent avec l'hiver que la notion que c'est un cycle qui se répète tous les 10 000 ans ou quelque chose comme ça.
Une question là-bas.
Bonjour à vous, moi j'avais une petite question pour faire parallèle entre l'univers des Endless et l'univers des Mass Effect. Je me posais la question de savoir si vous parliez du continuum, du coup, il y avait une infinité de possibilités. Les Endless étaient grâce, c'était entre guillemets inscrits dans le temps, qui est un rock solide malgré toutes les possibilités, ou si c'est un peu interprété comme dans un Mass Effect, où systématiquement une race va finir par acquérir une telle technologie et aura le titre un peu générique d'Endless. Que ce soit pas
un statut entre nous. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Non, c'est très intéressant, c'est une excellente question. Oh, merci. Quand on a créé l'univers, un effet ou une chose qu'on voulait faire avec l'univers, c'était d'avoir cette notion un peu de l'histoire archéologique. Un peu de la notion de découvrir des ruines, de découvrir les puissantes reliques de passé, si c'est Indiana Jones ou Lara Croft ou autre chose comme ça, ça donne quand même une certaine épice en jeu. Donc pour nous, donc les Endless, c'était plutôt un peuple qui existait à un moment, qui avait atteint essentiellement un niveau de Dieu avec leur technologie, mais à cause des guerres internécines, ils sont morts et ils sont disparus. L'idée qu'il y avait d'autres races ou d'autres évolutions avec une race qui prend le nom de l'Endless parce que c'est le même effet, c'est très intéressant. Je n'ai pas pensé à ça, mais maintenant je vais le faire. Maintenant je vais le faire. Ok, on verra. Mais non, normalement c'était toutes ces possibilités narratives quantiques, c'était collapsé déjà. Non, il n'y avait qu'un Endless. C'est comme ça.
Question là-bas. Je vais.
Bonjour.
Moi j'ai une question, c'est sur, pour revenir sur le pas de temps qui n'était pas les mêmes entre les galaxies à cause de la différence entre l'espace temps entre une étoile et l'autre. Pourquoi c'était pas possible de faire que justement passer son tour à côté d'une étoile très lourde, où le temps s'écoule plus lentement, fasse plus d'effet, donc par exemple plus de ressources, plus de. Que dans notre endroit, pourquoi
c'est
pas possible du coup de faire
un effet
justement
que
le temps soit.
Oui, l'idée que le temps se passe de manière différente dans différents lieux du même jeu, c'est. On avait discuté cette idée que si vous approchez exactement à un black hole ou quelque chose comme ça, qu'il peut y avoir une différence, mais. Le problème qu'on avait, c'était plutôt de la réalisation de ça dans le jeu de manière compréhensible et lisible pour le joueur. Parce que surtout si c'est une galaxie qui est assez large, avec beaucoup d'effets, avec beaucoup de lieux spéciaux, des étoiles neutrons, des trous noirs, des choses comme ça, ça devenait juste impossible à designer et programmer, mais aussi de rendre ça lisible et compréhensible pour le joueur, et surtout en multijoueur, de comprendre ce qui se passe. Donc, ça aurait été une idée sympa à faire, mais pratiquement pour réaliser, non, c'est. J'ai essayé de pousser un peu dans les discussions design et ça, c'est un no-go, c'est pas possible.
D'autres questions? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, là, j'ai envie de demander est-ce que vous ferez un Endless Legend 2 parce que franchement, le premier est déjà excellent.
Merci.
Est-ce que vous pourriez faire d'autres justement parce que moi, je ne suis pas en train de créer votre jeu, mais l'idée me plaît.
Je peux vous dire d'abord qu'on ne travaille pas dessus actuellement. Bon, on a fait un Endless Space 1, on a fait un Endless Space 2. Endless Legend, c'est un jeu qui était très très bien noté, qui avait beaucoup de très bonnes presse. On a une super communauté là-dessus. Le problème qu'on a, c'est par exemple avec Endless Space 2, si on a fait Endless Space 1, ensuite Endless Space 2, ça aurait été vraiment Endless Space 1.5. Parce que on n'avait pas vraiment cherché dans d'autres inspirations, d'autres médiums. Le fait qu'on avait utilisé la planète, on a fait les quêtes de la faction, des choses comme ça pour la première fois, tout ça a beaucoup, beaucoup enrichi Endless Space pour que Endless Space 2, c'est un vrai 2. Et donc maintenant, on veut aussi faire peut-être autre chose, essayer autre chose, continuer à travailler sur Space 2, des DLC, d'autres améliorations et tout ça, avant de lancer dans un Endless Space 2. Afin que c'est pas juste, Endless Legend 2, pour que c'est pas juste Endless Legend 1.2, 1.5. Donc, moi, perso, j'ai vraiment envie de le faire. Je crois qu'un jour, on va probablement le faire, mais c'est pas pour tout de suite. Ça doit mûrir plus. Il faut qu'on trouve d'autres inspirations, d'autres challenges, d'autres nouveautés. Sinon, vous achetez essentiellement le même jeu avec quelques factions nouvelles et. Ça, pour nous, ça serait un peu la triche. Ça, on n'a pas envie. Donc, pas tout de suite. J'espère un jour, oui.
Du coup, c'est pas une question sur la série Endless, mais plutôt sur vous. Je voulais savoir si vous pouviez parler de votre parcours.
Mon parcours dans le jeu vidéo, c'est un peu limité. Je suis dedans depuis à peu près 2004, donc 13 ans. Avant, j'étais dans l'informatique des gestions. Qui, il n'y avait pas beaucoup de parallèles entre les deux. Mais depuis l'âge de très petit, je voulais toujours être écrivain. Mais bien sûr, étant trop sérieux et logique, je me suis dit, non, je ne vais jamais être écrivain, donc je suis devenu informaticien. Ce qui marchait longtemps, jusqu'à 2001, où la boule Internet a explosé. Et avec ça, ma salaire, ma boîte et tout le reste. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment de devenir écrivain pour de vrai. Et donc, dès à peu près 2004, j'étais dans un atelier, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Mark Laidlaw, qui était le lead writer de Valve. Vous connaissez peut-être le... Oui, donc voilà. et je me suis dit, mais on peut payer pour créer des jeux. C'était une sorte de... C'est inimaginable pour moi, juste inimaginable. Et donc, voilà, donc, il m'a mis en contact avec des gens en France. J'ai fait quelques essais pour des boîtes différentes. Éventuellement, j'étais pris par Ubisoft et j'ai financé pour Ubisoft pendant plusieurs années. Avant que Mathieu et Romain sont partis, et avec les deux et trois autres, on a créé Amplitude. Donc, c'est un parcours, c'est presque impossible de dire c'est quoi le parcours d'un game writer parce que ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de degré, de master, pour le design, oui, pour l'art, oui, pour la programmation, oui, pour tout ça, mais pour l'écrivain, je ne connais pas deux personnes qui ont le même parcours pour devenir écrivain de jeux vidéo. Donc,
vous avez travaillé
sur
quoi chez Ubisoft ?
Heroes of Might and Magic 5, Might and Magic 6, leurs extensions, surtout les extensions de 5. Dark Messiah, j'adore, c'était super ce jeu. Clash of Heroes, qui était un jeu DS, qui était assez sympa. C'est aussi sur Xbox, je crois. J'ai travaillé sur Ghost Recon sur Ruse, le jeu de stratégie Ruse, Deuxième Guerre mondiale, avec des éléments de poker, c'était assez sympa. Et ouais, quelques autres. Alexander Liederman, numéro 6, je crois. Un jeu de cheval pour les filles. Mais c'était cool, j'ai pris des trucs, donc voilà, j'ai pas honte, c'était sympa. Donc, ouais, pas mal de choses, mais là, depuis 2011, je suis presque uniquement sur les jeux d'amplitude, et bien, depuis peut-être 2014, je suis à temps plein avec le studio. Merci, comme ça, je pourrais me vanter un peu, c'est sympa.
Alors déjà, je vous un petit remerciement parce que moi j'ai pu examiner une spécialité d'un jeune. Je perds des gens, mais on s'y va. Et je voulais me poser la question parce que du coup, j'ai il y a sur deux des quatre jeux, entre parenthèses un petit peu d'un jeune quand même, il y a un peuple qui apparaît, en fait, qui n'apparaît pas dans un jeune, mais c'est son début en fait, c'est les Walters. Et de voir en fait la notion d'un peuple qui traverse le temps, d'où se vous de mettre le peuple de NHC Jeune dans le space, un peuple qui s'envole et qui continue à travers les jeux.
C'était. Les Volters n'étaient jamais conçus avec l'univers. Et ils n'étaient même pas en Space 1 avant, je crois que presque la dernière expansion. Mais ce qui s'est passé, c'est que après, on avait presque fini Space 2, on avait commencé Legend, parce qu'on savait qu'on voulait faire un jeu style civilisation fantastique sur une carte. Et donc, en commençant à créer Legend, et ensuite Dungeon, qui est arrivé un peu comme un ovni, on a décidé de faire, dans la dernière extension ou DLC de Space, de mettre les Volters, qui étaient une des factions de début, dans Legend. Et juste un peu pour faire un clin d'œil. Et donc, bien sûr, les designers décidaient aussi qu'ils voulaient mettre dans Dungeon. Donc d'un coup, j'avais une faction qui n'était pas conçue comme quelque chose de fil rouge du tout pour l'univers, qui d'un coup est un fil rouge pour l'univers. Donc il fallait déterminer un peu leur histoire et tout ça. Donc la version officielle, c'est bon. C'est que les races humanoïdes, c'est-à-dire le United Empire et les Volters, sont tous les deux des descendants d'une race qui s'appelait les Mesari, qui est un peu les premiers humanoïdes qui traversaient les étoiles dans notre univers. Et il y avait un vaisseau de prisonniers qui s'appelle le Success, qui s'est tombé sur Auriga. Et ça, c'était le jeu de Dungeon. Et donc, les gens qui ont survécu ce vaisseau de succès, de succès et peut-être d'autres, on ne voyait pas les Mésarais pour retrouver ou qui sont tombés au même temps. Ensemble, eux, ils ont devenu les Volters. Et donc, c'est comme ça que les Volters, ils étaient les Mésarais, ils ont devenu les Volters entre Dungeon et Legend. Et donc, en Legend, on les joue comme les Volters. Dans cette dernière expansion de Space 1, je sais que c'est un peu tordu, je suis désolé, on n'a pas fait exprès. Ce qu'on a dit pour Space 1, c'était que quelque part, à la fin de Legend, les Volters ont trouvé moyen de retrouver les étoiles. Et donc, mais ils étaient perdus en cours et recherchaient Auriga. Donc, parce que un peu le thème qui arrive toujours sur les Volters maintenant, c'est qu'ils cherchent, leur home, leur vrai lieu d'origine, leur vrai lieu où ils peuvent mettre des racines et y rester. Et être, voilà, là, enfin, on est chez nous. Donc ça, c'est un peu le thème des Volters, un peu des itinérants de l'espace. Mais c'est un truc qui était juste cousu un peu comme ça, à la volée, à cause de ce qu'on a fait pour les jeux.
Du coup, ils arrivent quand dans les
espèces ? Prochaine question ?
rapidement, une question avant. Oui. Avant ça, est-ce que vous avez la particularité d'Amplitude, c'est de travailler avec la communauté sur la construction des jeux.
Oui.
Peut-être juste en dire un mot. Et je voulais savoir quelle influence ça peut avoir sur ton travail, sur la façon de travailler, le fait d'avoir des inputs comme ça potentiellement d'une communauté plutôt que de travailler finalement seul, comme tu as pu le faire sans doute chez Ubisoft.
La communauté, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment incroyablement important pour nous. On essaie au maximum de ramener la communauté dans notre équipe de dev, avec leurs opinions, leurs idées, les commentaires. Carrément, il y a souvent toujours les votes, les compétitions, créer une faction, choisir un héros, voter sur une biographie. Et surtout, on cherche le feedback. Le problème avec un jeu qui est généré d'une manière aléatoire, qui est assez vaste comme les nôtres, c'est qu'on ne peut jamais, même avec une vingtaine de testeurs à temps plein, on ne peut jamais trouver tous les cas. On ne va jamais trouver tous les cas qui sont possibles. Et donc, on a besoin de la communauté de dire, oui, ça c'est le mécanique est pas mal, mais si vous jouez les sophones et vous êtes un tel type de galaxie et vous êtes contre X et vous décidez de faire ça, il y a un truc qui arrive qui est vraiment bizarre et vous gagnez le jeu dans 3 tours. Des choses comme ça. Et on est incapable de tester et trouver ça. Donc, on a besoin de la communauté d'abord pour nous dire où ça part un peu en vrac, mais aussi d'amener les idées. On est 60 personnes qui ont des bonnes têtes, mais vous êtes des milliers de gens qui avaient des têtes aussi bonnes que les nôtres. Donc, vos idées, vos inspirations, vos commentaires, c'est de l'or pour nous. Donc, on a un site web qui s'appelle Games Together, avec un 2, gamestogether.com. Et là, on cherche tout le feedback, toutes les idées, et même on met du temps dans le project planning pour voir il y a une idée de la communauté. Voilà, il y a un vide là où on attend les idées de la communauté pour les mettre dans le jeu. C'est à ce niveau-là qu'on essaie quand même d'attirer vos idées et vos inspirations, quoi. Donc et donc pour moi c'est intéressant parce que parfois il y a des communautés qui disent, oui, Jeff, mais t'as dit ça dans ce jeu-là, mais là t'as dit ça. Il y a des moments où il faut trouver, ah oui, mais tu vois, dans ça. Donc, mais c'est bien parce que quelque part, vous me gardez honnête et cohérente et tout ça. Et ça, c'est très important parce que je suis toujours dans le quotidien. J'ai pas toujours le temps de réfléchir. Et donc, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça, de vos idées, de vos inspirations et de vos petites claques quand je parte un peu dans le mauvais sens, quoi.
Bonjour, déjà merci d'être là, c'est vachement bien de voir ici.
Merci.
Et je voulais revenir sur la décision de ne pas choisir la version de canon de l'histoire. Moi, ça m'a rappelé des débats qui avaient eu lieu après la sortie du dernier Dragon Age, où sur quelques forums, il y avait des gens qui s'étaient mis à décider quelle variation de l'histoire était la narrativement la plus intéressante, ou celle qui donnait des espèces de suppléments d'âme à l'histoire. Et ma question, c'est est-ce que, même si ça doit être un crève-cœur de choisir une bonne version de l'histoire, est-ce que narrativement, il n'y a pas intérêt à le faire pour donner une histoire plus riche dans un futur de l'espèce 3?
pourvu que ça arrive. Ce qu'on a fait pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu sur notre site, on commence à faire des comics, mais des petits comics de 8 pages. On est en train de faire une pour chaque faction, chacun des 8 factions de Endless Space 2. C'est des petites vignettes qui présentent un peu la faction de notre point de vue, parfois marrante, parfois triste et tout. Et donc je suis très contente de, parce que dans le jeu même, c'est plutôt les chiffres, c'est plutôt le UI et tout ça. On ne touche pas vraiment l'âme de la faction, de les peuples, de leurs sentiments. Et donc les petites choses, pour moi, les petits éléments comme 8 pages de comics, ça c'est superbe. Parce que ça donne l'ambiance, ça donne un peu le feeling qu'on aimerait donner à la faction, sans dire, comme je ne veux pas dire, votre jeu c'est pas le bon. Donc un jour, oui, un jour c'est possible. Qu'on aimerait prendre nos artistes juste incroyables et dire bon, on va faire un court métrage parce que votre travail est tellement sublime qu'il faut, il faut le faire. Donc ça pourrait arriver un jour, mais même on va peut-être essayer de trouver une manière de dire mais c'est pas la seule histoire, parce que je comprends, et surtout étant d'origine écrivain, j'ai bien sûr le désir de faire le trajet, le narratif le plus beau, le plus parfait, le plus émouvant possible. Mais c'est comme quand on travaille avec la communauté, c'est pas autant dire que les vôtres sont pas aussi émouvantes et aussi cool que le mien. Donc quelque part, c'est un peu la botte un peu dure de narratif pour dire que non, c'est ça la version canonique. Si ça arrive, ça arrive. On va essayer de faire quelque chose d'incroyable. Mais c'est pas ce que j'aimerais faire. C'est pas ce que j'aimerais faire. On peut continuer dans le bar après. Vous avez vu le bar de Madame Spock? Ça, j'ai pas compris.
Alors, du coup, j'ai une question sur le plus en BD de Gabriel. Dans tous vos jeux, le temps, c'est du enter, ou c'est l'ouverture du port dans Dungeon of CNS. Est-ce que vous avez déjà pensé à explorer d'autres types de jeux où vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un enter? Parce que ça ne se fait pas. Donc, par exemple, la FS ne peut pas mettre un. Enfin, c'est très difficile de mettre un enter et qui vous forcerait à passer le temps dans le jeu un peu différemment.
La question, le problème, c'est que on avait pensé, il y a même des éléments dans Dungeon qui sont limite intern, les choses qui se passent entre les tours ou pendant le tour, vous pouvez contrôler les choses. Mais le problème, c'est que ça devient vraiment un autre genre. Ça sera plutôt un jeu en temps réel. Quelque part, en tout cas, ce que je peux dire, c'est pour l'instant, on aimerait vraiment faire des jeux qui sont vraiment des jeux de réflexion. Donc, vous pouvez poser, manger le dîner en réfléchissant ce que vous allez faire, revenir et le faire, ou en jouant avec des amis, de prendre 3 minutes par tour, 5 minutes par tour, et pas 30 secondes. C'est pour l'instant, quelque part, c'est un peu notre marque de fabrique, quoi, de faire le tour par tour, et de gérer le temps autrement. Le plus proche qu'on est arrivé à ça, c'est justement avec les Riftbound, et leur idée d'accélérer ou décélérer le développement d'un système ou contrôler une bataille comme ça. Mais au-delà de ça, c'est pour l'instant, tous nos systèmes de fabrication, de programmation, de design, c'est vraiment basé autour de tour par tour. Et donc, ça serait, pour l'instant, un grand changement. Mais si vous avez des idées, dites-nous sur les forums, on va les lire, on va les discuter, sans souci, avec plaisir.
D'ailleurs, dans le fonctionnement du studio, je voulais savoir, qui est directeur narratif, mais est-ce que tu es venu t'intégrer sur les idées qu'avaient les autres fondateurs du studio qui voulaient faire tel ou tel type de jeu, que ce soit d'ailleurs sur cette question des mécaniques comme de la question de la narration de l'univers, ou est-ce qu'ils avaient juste des idées très vagues et toi t'as apporté tout le contenu, ou est-ce que c'est quelque chose que vous construisez de toute façon tous ensemble et finalement tu fais la synthèse de ces choses-là comme tu le fais avec les autres contenus, quel est le fonctionnement à ce niveau-là?
C'est parce qu'on avait commencé, le studio a commencé carrément comme, je crois, 7 personnes dans l'appartement de Mathieu, une soirée par semaine. On a depuis le début l'habitude de travailler comme ça, assez intimement, en équipe, et de partager les idées. Et surtout pour moi, pour l'univers que j'ai fait, que j'ai créé en binôme avec Romain. Toujours quand il y a une session de brainstorming ou quelque chose, je suis impliqué. Il y a une designer qui est là, il y a un artiste qui est là. C'est travailler en équipe comme ça et travailler c'est travailler avec la communauté. C'est vachement important. Donc, c'est vrai que ce qui se passe, c'est par exemple, OK, Jeff, pour Endless Space 2, on a besoin d'une faction qui est mercantile, qui cherche que le fric. Donnez-vous trois idées. Donc, moi, j'ai dit, OK, une faction style mafia, une faction style investment banker qui essaie d'arracher l'univers à leur profit, et je ne mets pas plus le troisième, pirate, je crois. Et donc, je présente les trois idées, on les discute, on décide ce qui est le meilleur, on partage, on les décortique un peu et on trouve ce qu'on préfère. Donc c'est vraiment cette idée de d'interaction constante et de brainstorming qui je crois que nous, pour nous, c'est une de nos forces.
D'accord. Et toi, du coup, en tant qu'auteur, quelque part, notamment de science-fiction, tu n'as jamais du coup l'envie d'imposer une idée, tu restes comme ça, mais sur cette envie de, au contraire, de partager, de voir fleurir toutes les idées, d'être capable d'avancer en fait.
Oui, parfois j'ai envie de imposer ma vision d'une faction, d'un événement, d'une quête, mais il y a d'abord le gameplay qui prime, parce que ça doit être surtout un mécanique et un moment de gameplay sympathique. Et deuxièmement, même si je crois que je suis le meilleur écrivain du studio, il y a tout le monde qui a des super idées, il y a la communauté qui a des super idées. Donc j'ose pas m'imposer comme non, il faut faire comme ça parce que c'est moi, l'écrivain, je n'arrive pas à faire ça. Peut-être un jour, ça va arriver, mais pour l'instant, pas encore. Pas encore.
temps pour une dernière question. Justement, pour ça, on voit les visuels dans votre univers qui sont très beaux, enfin, vraiment très beaux. Est-ce que, du coup, il peut y avoir l'influence d'un visuel sur une idée ou sur... Ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là ?
Absolument. Il y a beaucoup d'éléments dans le jeu qui avaient commencé avec le dessin. Il y a un qui est, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Endless Space 1, les Hisho, qui est une race guerrière. Et moi, j'avais l'idée, parce que j'étais un étudiant de japonologie à l'époque, et j'adorais toujours les samouraïs, donc je voulais une race un peu style samouraï. Et des artistes ont commencé à mélanger cette sorte de oiseau de proie, qu'est-ce qu'on dit, rapace, merci, une rapace avec les styles à la fois samouraï mais aussi un peu aztèque. Et donc ils ont sorti ces images que je trouvais époustouflant, tellement beau. Je me suis dit, OK, voilà, ça j'adore, on va faire comme ça. Et à partir de ça, on a commencé à créer leur culture, leur histoire et tout. Donc, ça arrive très, très souvent qu'il y a un aller-retour entre les artistes, les designers et moi, ou entre eux et moi, j'apprends après et je m'adapte et tout. L'exemple le plus poussé, c'est peut-être les Alaï de Endless Legend. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était une des dernières extensions qu'on avait fait. Moi, je suis parti... 5 semaines en vacances, un vrai vacances à la française, que je crois que je méritais. Je suis revenu après, et ils ont dit, voilà, Jeff, le prochain race pour Endless Legend, c'était cette espèce de ange chauve-souris chèvre, blanc et orange, qui volait et qui changeait la couleur en hiver. Et non, mais franchement, au début, je croyais que c'était une blague. Mais non, ils ont dit non, c'est comme ça. Ensuite, ils m'avaient expliqué pourquoi et comment et pourquoi ils sont arrivés là et avec quel raisonnement et tout cela. Donc voilà, et on attaque, on fait des brainstorming, on les intrigue. Et fin de compte, ils étaient, pour ma part, je crois qu'ils avaient une très intéressante place dans l'histoire de cette planète. Donc ça, c'était absolument, moi, je n'avais rien à voir et je suis très, très content avec le résultat. Donc. Ça pourrait marcher comme ça aussi.
Bon, eh bien, on va arrêter là. Merci beaucoup.
Merci énormément. Merci à tous.